On est sans nouvelles d'elle depuis le 15 décembre dernier. Delphine, cette infirmière de 33 ans, disparue à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, et l'enquête piétine que les gendarmes semblent désormais privilégier un enlèvement ou une séquestration.
Bonsoir. 3 mois d'attente, de mystères, de révélations intrigantes et de spéculations quotidiennes. 3 mois que la France bat au rythme de cette énigme criminelle, l'affaire Jubilard. Delphine Jubilard, une jeune mère de famille disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, une bourgade du Tarn près d'Albi. Impossible d'imaginer une disparition volontaire. L'enquête s'est donc concentrée sur un enlèvement qui aurait pu être suivi d'un meurtre. Dans ce genre de scénario, c'est toujours l'entourage le plus proche de la victime qui est immédiatement suspecté. Le mari de Delphine Jubilard, effet immédiat de l'affaire Jonathan Daval, va être ainsi régulièrement montré du doigt. Des dénonciations, le plus souvent anonymes. À ce jour, aucune charge n'est retenue contre Cédric Jubilard, qui n'a d'ailleurs jamais été placé en garde à vue. Malgré cela, le dossier est devenu une foire aux rumeurs où toutes les interprétations sont permises. Loin de ce tintamarre, l'enquête, elle, avance méthodiquement et dans la plus grande discrétion. C'est cette enquête que nous allons décrypter ce soir avec nos invités, recenser les pistes, celles qui tiennent, celles qui font partie du fantasme, et essayer de comprendre comment, en 3 mois, l'affaire Jubilard est devenue une affaire hors du commun qui s'est emparée de nos imaginations.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, la disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn. On perd la trace de cette mère de famille à la sortie de chez elle, 10 jours avant les fêtes de fin d'année qu'elle devait passer en famille. Ce mardi 15 décembre 2020 au soir, Delphine Jubilard est chez elle. Une maison au numéro 19 de la rue Yves Montand à Cagnac-les-Mines. Une localité tranquille de 2600 habitants, ancienne cité minière entre Albi et Carmo. Cette infirmière de la clinique Claude Bernard à Albi travaille le plus souvent de nuit. Mais ce soir-là, elle n'est pas de service. Elle a même une semaine de repos devant elle. Dans la maison où se trouve son mari Cédric, elle en profite pour se reposer et prendre son temps. Elle a donné le bain à ses enfants, la petite Elia, 18 mois, et l'aîné Louis, âgé de 6 ans. Elle a couché tôt sa fille et regarde la télé avec son fils qui a eu droit de se coucher un peu plus tard. Il n'a pas école le lendemain. Vers 23h, le mari Cédric, qui travaille à son compte comme plâtrier et carreleur, raconte qu'il est allé se coucher. Delphine serait restée, elle, devant la télé. Cédric et Delphine ont tous deux 33 ans. Ils se sont connus tout jeunes et sont depuis quelques mois en instance de divorce. Leurs chemins ont donc commencé à diverger. Mari et femme ne couchent plus qu'épisodiquement dans le même lit. Le plus souvent, Delphine occupe le canapé dans le salon. Aux alentours de 4h du matin, Cédric Jubilard raconte avoir été réveillé par les pleurs de la petite Elia. Elle avait sans doute perdu sa tétine. Les pleurs ne s'arrêtant pas, il s'est levé et s'est aperçu que Delphine n'était pas dans la pièce où dorment les enfants. Il pensait la retrouver sur le canapé, mais elle ne s'y trouvait pas. Le mari dit alors avoir fait le tour des pièces sans trouver sa femme. Il est descendu au sous-sol et s'est aperçu, toujours selon ses déclarations, que les deux chiens du couple, deux Sharpei baptisés Gnocchi et Oprah, n'étaient pas là. Sur le coup, il a pensé que Delphine était sortie pour les promener. Curieuse idée que cette balade en pleine nuit, alors qu'il fait froid, la température extérieure n'excède pas les 3 degrés. Quand l'époux ouvre la porte de la maison, il dit avoir aperçu les deux chiens qui ont aussitôt accouru vers lui, désireux de rentrer, mais Delphine ne les accompagnait pas. Introuvable dans le quartier plongé dans la plus totale obscurité, il n'y a pas d'éclairage public dans ce secteur de la ville. Delphine a quitté la maison familiale en emportant sa doudoune blanche et son téléphone portable. Elle ne répond pas aux appels. Cédric pense que son épouse est chez l'une de ses amies qui habite à proximité. Il contacte celle-ci par texto. Dit à Delphine qu'elle rentre à la maison, mais l'amie répond que Delphine n'est pas chez elle. Cédric aurait alors continué à appeler sa femme sur son portable sans obtenir aucune réponse, se heurtant en permanence à la messagerie. Delphine ne va pas réapparaître au numéro 19 de la rue Yves Montand. À 6h du matin, il contacte donc la gendarmerie qui prend une première déposition et va vite lancer une enquête de très grande envergure. Bonsoir Ronan Folgoas.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ce soir dans l'heure du crime. Et vous êtes dans le studio ce soir de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au Parisien, journaliste police-justice. Vous connaissez parfaitement cette affaire. Vous l'avez suivie depuis le début. Vous êtes beaucoup déplacé sur place. Alors on va bien sûr parler de Delphine et de Cédric Jubilar tout au long de cette heure du crime. Déjà, Ronan Folgoas, à quoi ressemble ce couple ?
C'est un couple assez dissemblable, hein, d'après ce que l'on comprend, d'après ce que l'on nous explique. Delphine a une personnalité assez expansive, alors expansive dans une certaine mesure, elle est aussi décrite comme discrète, mais en tout cas sociable, très bien insérée professionnellement. Elle est infirmière de nuit, elle a un cercle d'amis, de copines sur Cagnac-les-Mines comme dans son milieu professionnel. Elle est décrite aussi comme une maman attentive, présente.
Hein. Elle aime beaucoup ses enfants.
Oui, comme
la plupart des mamans.
Comme la plupart des mamans, j'allais dire. Et puis, elle participe à la vie de l'école, hein, au même titre d'ailleurs que son mari. Cédric a participé pendant un temps aux activités de l'association des parents d'élèves. Il en est sorti, visiblement, assez rapidement. Mais tout de même, hein, Cédric apparaît aussi dans le paysage. Et puis à l'inverse, Cédric Jubilar est décrit comme une personne un peu plus solitaire, un écorché vif, nous a-t-on dit, assez colérique, qui peut s'emporter pour
il
un oui,
pas
pour
beaucoup.
Un non. Alors voilà, c'est un homme de peu de mots, comme on
un
dit.
Taiseux.
Un taiseux, c'est ça, mais qui est capable aussi de certaines petits accès de colère. Hein. Mm-hmm. Ça peut lui arriver, en tout cas sur le plan verbal, pas sur le plan physique. Hein. Alors, ce n'est pas un bagarreur.
Il y a ce contraste que vous décrivez très bien entre ces deux personnes, hein, qui forment un couple. Ils sont connus très jeunes, on l'a dit. Hein. Ils sont mariés depuis 14 ans à peu près, 12-14 ans. Ils habitent donc cette espèce de gros village près de Cagnac-les-Mines. Et puis dans ce village, au milieu, il y a la maison des Jubilars. Alors là, il faut que vous nous décriviez un petit peu l'endroit, parce que c'est un peu particulier.
Oui, c'est vrai que cette maison, ce numéro 19, tranche un peu par rapport aux habitations aux alentours. C'est un lotissement, on va dire, des maisons bien entretenues, plutôt de belles factures.
Quartier résidentiel, quoi.
Voilà, un joli lotissement. Et c'est vrai que cette maison dénote, puisqu'elle n'est pas achevée. C'est-à-dire que les briques rouges de la maison n'ont pas été recouvertes de crépi. Le jardin, ou en tout cas ce qui ressemble à un jardin, est parsemé de ferrailles, de jouets abandonnés, de pots de peinture. Enfin, vous voyez, c'est comme une maison en chantier, hein,
ouais, c'est
finalement.
Donc c'est un peu. D'ailleurs, on surnomme l'endroit, je crois, Beyrouth. Hein.
Certains voisins médisants, en tout cas.
Oui. Certains, c'est pas très gentil. Mais enfin, ce qui prouve un petit peu ce désordre ambiant qui peut régner autour de cette demeure. Encore une question, Ronan Folgoas. Delphine Jubilar est-elle familière des absences, des disparitions ? Est-ce qu'elle peut surprendre en partant comme ça, quelques jours, quelques temps ?
Il n'y a pas dans son passé de départ comme ça significatif. En tout cas, pas la connaissance de Cédric. Hein, on verra peut-être plus tard qu'elle a aussi parfois des moments de petite clandestinité dans les mois qui précèdent sa disparition. Mais ça n'a rien à voir avec une disparition.
On verra plus tard, mais en tout cas, ce n'est pas une habituée, disons, de la fugue ou bien du départ comme ça, sans explication. On a en ligne ce soir comme invité dans l'heure du crime François Daoust. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup. Vous êtes l'ancien directeur de l'IRCGN. Alors, c'est l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, les experts de la gendarmerie, comme on les appelle. En quelques mots, François Daoust, parce qu'on va revenir sur l'affaire et évidemment sur le travail de la gendarmerie, mais en quelques mots, là, on est au tout début d'une affaire criminelle. Quels sont les réflexes pour les gendarmes, là, en matière scientifique presque. Qu'est-ce qu'on fait au début, au tout début ?
Alors, immédiatement, c'est la conservation des traces. C'est-à-dire que ce soit dans la maison, autour de la maison, que ce soit sur les parcours supposés de la personne qui a disparu jusqu'à l'endroit d'où elle a disparu, eh bien, c'est la recherche immédiate de traces, parce que ce soit le temps extérieur ou les personnes qui vivent au quotidien peuvent les effacer les unes derrière les autres. Donc, c'est la sauvegarde de tout ce qui peut rester comme trace du passage et de ce qui a fait que elle est avancer quelque part vers un endroit précis ou vers un point de rendez-vous.
Sauvegarde des traces, le fait est que les gendarmes vont prendre très au sérieux l'absence soudaine de la mère de famille. Dès le signalement du mari, ils lancent un avis de recherche pour disparition inquiétante. Commence alors véritablement l'affaire Jubilard. Aucune trace de Delphine Jubilard dans le secteur de Cagnac-les-Mines. Au regard du profil de la victime, une disparition volontaire paraît peu probable. Selon les premiers témoignages, Delphine est une mère de famille qui adore ses enfants. Elle ne les aurait jamais laissés seuls sans donner de nouvelles. Elle est certes en instance de divorce, demande dont elle est à l'origine, mais elle n'a jamais évoqué le désir de quitter du jour au lendemain la maison familiale, surtout sans ses enfants. Rien ne permet de dire en outre que Delphine aurait été désespérée et s'apprêtait à commettre l'irréparable. Ses collègues de la clinique Claude Bernard à Albi n'ont remarqué aucun changement de comportement chez elle. Ces derniers jours, l'infirmière affectée au service gériatrie était égale à elle-même, sérieuse et ponctuelle. Elle n'avait fait état d'aucune difficulté. Le fait est que la jeune femme est partie sans ses papiers d'identité et sans son argent, mais avec son manteau et son portable, idée qui accrédite a priori la thèse d'une sortie volontaire pour prendre l'air ou répondre à un rendez-vous. Cela fait partie des hypothèses. Il est possible qu'elle ait eu un accident ou que sur le pas de la porte, elle ait fait une mauvaise rencontre. Des équipes de gendarmes quadrillent le secteur et poussent les recherches plusieurs kilomètres à la ronde autour de Cagnac-les-Mines. Les enquêteurs utilisent un drone pour survoler ce périmètre. Un paysage accidenté, composé de vallons, de chemins miniers, d'abris naturels, de petites falaises, de forêts boisées. Autant d'endroits où l'on peut se cacher sans être vu et disparaître. Les hommes de la section de recherche de Toulouse et ceux du groupement de gendarmerie du Tarn s'attardent de longues heures au lac de Roucarier. Cinq plongeurs explorent les eaux mais ne trouvent rien. Une forêt proche de Cagnac-les-Mines est ratissée une deuxième fois en vain. La thèse de l'accident s'éloigne de plus en plus et la piste criminelle se renforce. Une semaine après les faits, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est confiée au pôle criminel du tribunal judiciaire de Toulouse. Deux juges d'instruction sont désignés au vu de l'importance et de la complexité de l'affaire, précise tout de suite le procureur Dominique Alzéhari, qui ajoute « Rien n'indique que cette disparition a pu être volontaire ». Mercredi 23 décembre, une battue citoyenne est organisée pour essayer de retrouver Delphine Jubilard. Pas moins de 1000 volontaires venus de tout le département et même de plus loin sont présents pour ratisser le terrain. Tout le monde s'est donné rendez-vous le matin à 9h sur un terrain de foot de Cagnac-les-Mines. Les gendarmes organisent et encadrent des petits groupes d'hommes et de femmes. Le mari de la disparue, Cédric Jubilard, est présent. Impossible de savoir où est passée Delphine. Son portable a cessé de fonctionner le 16 décembre au matin, jour de sa disparition. Les chiens Saint-Hubert de la gendarmerie ont suivi sa trace jusqu'au pied d'un panneau stop au croisement de deux petites routes à 200 mètres à peine de la maison familiale. Ronan Folgoas, vous êtes journaliste au Parisien, vous avez enquêté sur cette affaire depuis le début, vous connaissez bien le secteur. Ce panneau stop, c'est le seul indice qu'on ait. La piste s'arrête là, les chiens arrêtent de marquer la piste de Delphine à ce moment-là.
Oui, et les enquêteurs, évidemment, dans pareille situation, se demandent même si cette trace olfactive, eh bien, de quand elle date. Est-ce qu'elle date du soir et de la nuit du 15 au 16 décembre ? Est-elle plus ancienne ? Et dans ce cas-là, elle ne voudrait strictement rien dire. Oui, c'est une piste, une indication, mais qui n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Peut-être, alors dans le cas inverse, peut-être si cette trace olfactive veut dire quelque chose, c'est-à-dire si Delphine Jubilard a bien emprunté ce parcours de 200 mètres qui sépare son domicile de ce panneau stop, alors peut-être avait-elle effectivement un rendez-vous à cet endroit précis, et puis qu'ensuite elle serait montée dans une voiture, mais ça c'est une spéculation.
D'autant plus que c'est un petit peu intriguant, parce que là il faut quand même resituer un peu le contexte, on est dans la campagne, on n'est pas... Alors là, il y a évidemment dans des maisons, on est dans un lotissement, etc. Ce que je veux dire par là, Ronan Folgoas, parce que moi ça m'intrigue depuis le début, c'est qu'un panneau stop, c'est aussi un lieu parfait pour un rendez-vous.
Tout à fait. On se retrouve au panneau stop, ça on l'entend 10 fois. Ça peut être aussi un lieu de rendez-vous, ou en tout cas un lieu où les voitures peuvent s'arrêter, fatalement, et se garer.
Exactement, c'est ce qui peut laisser à penser, effectivement, que Delphine avait éventuellement un rendez-vous fixé à l'avance avec une personne, eh bien, qui l'aurait ensuite emmené dans un endroit un peu plus discret. Ça, c'est une hypothèse, effectivement. Elle repose sur assez peu d'éléments concrets, donc il faut faire très attention.
En tout cas, c'est la seule trace que l'on ait de Delphine aujourd'hui, c'est cette sortie à 200 mètres de chez elle à peu près. Il n'y a pas d'autre chose.
Sur le thème de la sortie, cette sortie nocturne, pourquoi Delphine aurait
Exactement,
pu éventuellement
se poser la question.
Il y a une autre hypothèse qui est avancée, mais avec beaucoup de précautions, c'est celle d'une balade toute simple avec ses chiens, puisque il y a quand même une inconnue là autour de la présence de ces deux chiens, ces deux charpeys. Hein, on rappelle leurs petits noms, Gnocchi et Oprah.
Le mâle et la femelle.
Voilà. Elle aurait pu, c'est crédible, elle aurait pu faire une petite promenade nocturne comme ça avant d'aller elle-même se coucher. C'était une habitude, semble-t-il, chez ce couple, comme dans beaucoup de propriétaires de chiens, d'aller promener leur chien juste avant d'aller au lit. Bon.
Dans ce cas-là, Ronan Folgoas, ça accrédite la thèse de la mauvaise rencontre, on est d'accord ?
Ou alors d'une rencontre en tout cas imprévue avec une personne peut-être de sa connaissance, mais ensuite les choses auraient éventuellement dérapé. Oui, ça ce n'est pas tout à fait exclu. Oui.
En tout cas, il est inenvisageable ce que je disais au début, c'est qu'elle soit partie comme ça sur un coup de tête, ça ne lui ressemble pas. Ça, on est d'accord. Hein. Elle part avec son portable et son manteau parce qu'il fait pas très chaud. Elle laisse tous ses papiers, elle laisse son argent.
Alors ça ne colle pas du tout effectivement avec le personnage, avec ce que l'on comprend de sa personnalité. C'est une mère de famille qui a la tête bien sur les épaules, qui mûrissait ce projet de divorce depuis un certain temps. Hein. Quand on dit qu'elle avait présenté ce projet à son mari, elle l'avait mis un peu dans le fait accompli, hein, il faut bien le dire, au cours de l'été 2020. Mais en réalité, ce projet de divorce datait même de 2018, peut-on dire.
Hein. Oui, c'est ça. Et oui, c'était quelque chose qui était ancien. François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN, l'Institut de Recherche de la Gendarmerie Nationale. En quelques mots, j'ai parlé de ces battues énormes dans la campagne autour du village. Ça ne va rien donner, on le sait aujourd'hui. Est-ce que c'est bien utile ces battues géantes qui sont toujours là dès qu'il y a un crime qui se produit? Est-ce que ça sert à quelque chose?
Ça sert à deux choses. La première, c'est que si la personne a eu un accident et que parce qu'elle s'est perdue, parce que pour X raison, ce sera au plus près de la maison et tout autour. Donc là, ne pas le faire, c'est mettre une pression psychologique sur la famille et qui dit « mais on ne fait rien pour nous ». Et c'est utile de le faire pour ces deux raisons, c'est-à-dire à la fois psychologiquement, l'envie d'aider de l'ensemble de la population qui, elle aussi, participe activement à cette recherche en cas d'accident. Et s'il y a accident, c'est-à-dire pouvoir porter secours rapidement à quelqu'un qui n'est plus en capacité de pouvoir revenir. Donc là, il faut surtout continuer à le faire. On ne peut pas passer à côté.
Évidemment, l'enquête va aussitôt se tourner, comme c'est l'usage, vers la dernière personne ayant vu en vie Delphine, tout simplement son mari Cédric, sur lequel vont se focaliser rumeurs et soupçons. Le 6 janvier, les gendarmes sont de retour dans la maison de Cédric et Delphine Jubilard à Cagnac-les-Mines. C'est la troisième fois en 3 semaines qu'ils se rendent à cette adresse. Cette fois, le débarquement est plus important que précédemment. Les enquêteurs sont une trentaine environ. On a fait venir pour l'occasion des maîtres chiens et leurs chiens spécialisés dans les recherches de cadavres. Sur place également, des techniciens de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie, l'IRCGN. L'extérieur, un fatras de gravats, de tôles rouillées et de matériaux de construction est retourné, tout comme l'intérieur de la demeure passé au crible. Toutes les pièces sont passées au Blue Star, un révélateur de taches de sang. Les sols et les sous-sols sont même scannés avec un géoradar, instrument qui permet de déceler toute cavité qui serait dissimulée dans un mur ou une dalle de béton. Cédric Jubilard a été prié d'assister à la perquisition. Il n'est pas illogique dans une affaire de disparition inquiétante que l'on s'intéresse à la dernière personne qui a été en contact avec la disparue, indique alors maître Jean-Baptiste Allary, son avocat. Le mari, entendu à deux reprises par les gendarmes, mais à ce jour jamais placé en garde à vue, reste pour la justice un simple témoin. Il n'en demeure pas moins présenté sur les réseaux sociaux et parfois dans les commentaires comme un possible suspect. Le parallèle est rapidement établi avec l'affaire Jonathan Daval, mari qui avait signalé la disparition de son épouse Alexia, avant d'être confondu par les gendarmes. Dans le cas présent, Cédric est très souvent présenté sous son mauvais jour. Un homme instable professionnellement, quelqu'un de secret, introverti, un fumeur de marijuana qui pourrait être violent selon certains témoignages d'habitants de Cagnac. Delphine se serait lassée de ce mari qui n'arrivait pas à terminer la maison et ne faisait pas d'efforts pour lui offrir un lieu de vie digne de ce nom. Un élément qui expliquerait la volonté de divorcer de la jeune femme. Un choix qui aurait été mal accepté, dit-on, par Cédric. La rumeur ne va ainsi cesser d'enfler au sujet du mari. Le 3 mars, sur France Bleu Occitanie, un homme se présentant comme un membre de la famille Jubilard indique que Cédric aurait proféré des menaces. Devant sa propre mère, il aurait déclaré « Oui, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne va la retrouver, elle veut me quitter, elle veut demander le divorce ». Après la disparition de Delphine, Cédric Jubilard avait préféré quitter la maison placée sous scellé pour aller vivre avec ses deux enfants chez sa mère et son beau-père à quelques kilomètres de Cagnac. Sa mauvaise réputation et le fait que son nom soit associé de façon trop souvent négative à la disparition de Delphine lui avait fait perdre son dernier emploi. Une embauche à l'essai dans une entreprise de peinture. Depuis un mois, il est revenu vivre au 19 rue Yves Montand. Il a retrouvé un emploi d'artisan plaquiste et a fait des allers-retours quotidiens jusqu'à Albi, évitant à la demande de son avocat de formuler tout commentaire sur le dossier. Eh bien, son avocat, on le retrouve, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime, maître Jean-Baptiste Allary, bonsoir.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes donc l'avocat de Cédric Jubilard, le mari de Delphine. Alors, je viens de le dire, il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce couple. On en a parlé avec notre invité ce soir, Ronan Folgoas, journaliste du Parisien. Il y a tout d'abord ce divorce qui se passe mal. C'est une instance de divorce qui se passe mal, c'est ça?
Alors, à proprement parler, il n'y a pas d'instance de divorce. Puisque l'instance de divorce implique nécessairement qu'un juge ait été saisi. En l'espèce, le couple était effectivement d'accord pour se séparer et chacun avait pris attache auprès de son avocat, les deux avocats s'étant rapprochés pour convenir d'un divorce sur consentement mutuel. Donc lorsque j'entends que la séparation n'était pas acceptée, c'est pas véritablement ce qui correspond.
C'est ce que dit la rumeur, maître. Hein. On dit il était fâché finalement avec sa femme. Oui, vous n'avez pas ce sentiment pour le connaître très bien votre client.
C'est davantage qu'un sentiment, il faut toujours prêter garde aux rumeurs. Vos confrères d'une radio locale 100% ont eu un contact avec l'avocate de Delphine Jubilard qui a pu confirmer lors d'une interview qu'effectivement la séparation partait sur une séparation amiable.
À l'amiable, ok. On est d'accord. Alors, merci beaucoup pour cette précision qui est d'importance, c'est-à-dire que ça, selon vous, il n'y a pas de clash entre les époux. Je voudrais, maître Allary, que vous nous disiez un petit peu quelques mots sur ces déclarations, alors là sur une autre radio, France Bleu, que j'ai citée, sur cette accusation anonyme qui dit que Cédric Jubilard avait l'intention finalement de trucider son épouse, on ne peut pas dire autre chose, parce qu'il ne supportait pas le divorce. J'aimerais vous entendre là-dessus.
Alors, d'une part, je n'ai pas lu en totalité, ou je n'ai pas pris connaissance en totalité des déclarations de cette personne, mais je crois qu'il faut toujours prendre un témoignage, quel qu'il soit, dans une procédure, avec une certaine réserve, et probablement plus encore lorsqu'il s'agit d'un témoignage anonyme qui intervient 2 mois après une disparition. J'espère que cette personne a fait des déclarations en bonne et due forme devant les services de la gendarmerie, mais à ma connaissance du moins, ça n'a pas interpellé spécifiquement qui que ce soit, puisque à ce jour, Cédric Jubilard n'a pas été inquiété du fait de la disparition de son épouse. Donc, je crois que sur ces déclarations-là, il faut être extrêmement réservé. J'ai toujours un petit peu de mal avec les personnes qui prétendent dire une vérité sous visage masqué.
C'est ça. Oui,
il faut prendre des réserves.
Je suis assez d'accord avec vous sur l'anonymat. C'est toujours quelque chose de très facile et parfois de terrible et de meurtrier. Je voudrais que vous nous disiez, maître, dans quel état d'esprit était votre client quand sa femme a disparu. Quel client avez-vous trouvé? Quel est cet homme? Qu'est-ce qu'il dit?
Alors, il est venu me voir initialement précisément à cause de la déferlante qui l'accable sur les réseaux sociaux. Nous connaissons tous ce tribunal populaire-là et les procureurs improvisés qui peuvent y sévir. C'est un homme simplement qui se retrouve acculé, en difficulté, parce qu'on peut imaginer humainement ce que ça peut représenter que d'être accusé de la sorte. Et il vient prendre simplement conseil pour savoir la conduite à tenir. Et c'est effectivement, vous l'avez évoqué dans votre reportage sur mes conseils, mais nous étions alors l'un et l'autre parfaitement d'accord, qu'il a fait le choix, et nous avons fait le choix d'éviter toute déclaration publique, dont on sait très bien que chacun des mots peut être retourné oui. contre la personne qui les prononce.
Évidemment, mais juste en quelques mots, maître, sa femme a disparu, vous avez un homme qui est accablé, effondré, qui ne comprend pas, je voudrais que vous nous disiez ça, son profil psychologique, on a toujours du mal à le cerner.
Alors, moi je le rencontre plusieurs semaines après la disparition. Il ne s'est pas précipité dans mon cabinet quelques jours après. Donc, plusieurs semaines se sont passées et probablement une forme de fatalisme quant à l'issue de cette procédure, ou du moins à l'issue de cette enquête qui, malgré le travail acharné, je le crois véritablement, et à ce jour, à mon sens parfaitement incontestable, des services de gendarmerie, n'a pas véritablement donné d'éléments probants, dirais-je. C'est vrai que l'ensemble des investigations qui ont été faites, et elles devaient l'être, votre intervenant a parfaitement raison, les battues, toutes les investigations qui ont été réalisées étaient parfaitement légitimes, mais dans la mesure où elles n'ont rien donné, c'est un homme qui vient et qui s'interroge et qui vient demander tout simplement conseil auprès d'un professionnel de la matière, de la procédure pénale, pour savoir un petit peu les conduites à tenir.
Les gendarmes vont évidemment continuer à examiner le fonctionnement de ce couple qui bat de l'aile, s'intéresser au mari qui a toujours répondu présent aux demandes des gendarmes, mais aussi se pencher sur Delphine, mère de famille qui avait commencé depuis quelques mois à avoir une double vie. Le 13 janvier 2021, un curieux message apparaît sur le compte Facebook de Delphine Jubilard. Un message vide qui va ensuite disparaître comme il était arrivé. Il n'en faut pas plus pour laisser penser que la disparue est vivante et essaie de se manifester. Les gendarmes conduisent des expertises techniques mais ne parviennent pas à donner une explication digne de ce nom à cet événement. Il s'agit sans doute d'un bug ou d'une tentative de piratage de ce compte dans le but peut-être d'y trouver des informations. Le 9 février, cette fois c'est le téléphone portable de Delphine qui se réactive pendant plusieurs heures. L'appareil pourtant était éteint et hors tension. Comment expliquer qu'il puisse ainsi être rallumé ? L'appareil a-t-il été trouvé, réactivé par une tierce personne? Delphine Jubilard aurait-elle essayé de s'en servir? Là aussi, les enquêteurs ne parviennent pas à obtenir une réponse rationnelle. La vie intime de la victime est examinée de près par les enquêteurs. Avant de disparaître, Delphine avait, semble-t-il, tourné la page de sa vie de femme mariée, se préparant au divorce et décidée à mener une autre existence. Une attitude qui n'avait pas échappé à son mari, qu'il avait soupçonné d'avoir une liaison. La jeune femme avait effectivement un amant dans la région, pas très loin de Cagnac. Elle le retrouvait de temps à autre, un homme qui a été longuement entendu par les gendarmes. Il a été mis hors de cause, il ne pouvait pas être le soir de la disparition auprès de ses maîtresses. Il n'avait pas de rendez-vous avec elle. Lors de son audition, il a indiqué n'avoir aucune explication sur cette disparition et n'a émis aucune critique ou accusation à l'encontre du mari. Après la disparition, Cédric Jubilard va trouver dans les affaires de son épouse des relevés bancaires étonnants, des locations de voitures, d'appartements, Airbnb à Toulouse et Albi, toute une organisation qui ressemble à s'y méprendre à une relation extra-conjugale. Delphine Jubilard cachait-elle d'autres secrets au point d'avoir été piégée par sa double vie ? C'est l'une des pistes suivies par les gendarmes. Depuis le début, les enquêteurs sont persuadés qu'un détail, même infime, peut faire basculer l'affaire. Dans la maison de Cédric et Delphine, ils ont ainsi entrepris toutes les investigations possibles. Ils ont même fait analyser les aliments et la soupe retrouvés dans le réfrigérateur pour savoir si ceci ne contenait pas des somnifères ou une quelconque drogue. Louis, le fils du couple âgé de 6 ans, a été questionné à deux reprises afin de savoir s'il n'avait pas assisté à une dispute de ses parents. Le 15 décembre au soir, rien de tel. Quelques cheveux de l'enfant ont été prélevés pour identifier ici aussi d'éventuelles traces de somnifères. Les résultats de ces expertises ne sont pas pour l'instant connus. Ronan Folgoas, journaliste au Parisien. Les troublants secrets de la famille Jubilard, c'est le titre d'un article du Parisien, et c'est vous et les journalistes qui vous entourent dans cette affaire. C'est l'équipe du Parisien qui a révélé ces comptes bancaires, ces dépenses.
Ces traces de paiement, effectivement.
Qui sont troublantes.
Qui ont, semble-t-il, troublé une personne, en l'occurrence Cédric, mon premier chef. Lui n'était pas au courant que son épouse avait pu louer un véhicule. Et puis à quoi bon, elle disposait, Delphine, d'une Peugeot 207 bleue qui était en bon état de marche. Donc pourquoi louer une voiture si ce n'est pour dissimuler un déplacement, et que ces kilomètres comme ça parcourus seuls ou avec une tierce personne n'apparaissent pas au compteur. Voilà, c'est une question qui s'est posée, et d'après ce qu'on a compris, que Cédric Jubilard lui-même s'est posé. Après, ces déplacements peut-être clandestins, comme ça, n'ont peut-être rien à voir avec sa disparition. Ça ouvre seulement une piste aux enquêteurs de la section de recherche de Toulouse.
C'est une porte qu'on ouvre, qu'on dit, et qu'on va devoir fermer, selon le langage des gendarmes et des policiers en général. Maître Jean-Baptiste Allary, vous êtes ce soir en ligne dans l'heure du crime, avocat, je le rappelle, de Cédric Jubilard. Vous confirmez, l'épouse de votre client avait bien une liaison, et votre client le savait ?
Je ne peux pas le confirmer, je ne peux pas l'infirmer, tant que je n'ai pas accès à la procédure. Bien entendu, lui avait conscience du fait que son épouse passait beaucoup de temps sur son téléphone, a priori à discuter avec d'autres personnes, mais sans pour autant avoir de véritables soupçons ou de certitudes. Mmh. Quoi qu'il en soit, c'était alors que les fêtes de fin d'année approchaient, et où la séparation du couple était actée. Ils avaient prévu pour les enfants passer des fêtes de fin d'année ensemble, et ensuite déterminer les modalités d'une vie séparée. Mmh. Donc je ne peux pas être aussi affirmatif que ça sur l'existence ou non d'une liaison, pardon, que l'on a commencé par qualifier d'épistolaire dans certains médias, pour aujourd'hui envisager qu'elle fût un petit peu plus précise. Mmh. Donc c'est très difficile, sans avoir accès au dossier, de se prononcer avec certitude sur des éléments pareils.
François Daoust, notre autre invité ce soir dans l'heure du crime, ancien directeur de l'Institut de recherche de la Gendarmerie nationale. Je parlais des analyses toxicologiques, notamment sur les cheveux de l'enfant, puis dans la nourriture, pour voir s'il y avait des traces de somnifères. C'est important, ça peut donner quelque chose, cette piste des somnifères ou des produits toxiques, j'allais dire.
Ah, bien évidemment, si on trouve des produits toxiques, des somnifères ou des équivalents dans la nourriture des enfants, ça veut dire qu'on a voulu absolument les endormir, qu'ils n'entendent rien, qu'ils ne soient pas réveillés par quelque chose d'anormal. Donc ça fait partie d'une procédure normale pour, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire on ferme toutes les portes
possibles, ouais.
Voilà, pour se diriger vers d'autres hypothèses.
Et est-ce que c'est long, vous qui êtes un expert en la matière, est-ce que c'est long d'avoir ces analyses? Parce qu'apparemment, on ne les a pas. Donc peut-être elles sont au dossier d'ailleurs, on ne sait pas.
Alors, les analyses toxicologiques sont toujours délicates parce qu'elles sont sur des matrices biologiques, qu'il faut un certain nombre de révélateurs pour les sortir. On peut arriver à le faire assez rapidement, sur quelques jours ou autre, si besoin. Et comme vous le disiez, si ça se trouve, les résultats sont déjà portés au dossier.
La piste familiale, la vie cachée de Delphine Jubilard intéresse bien sûr au plus haut point les gendarmes. Reste que l'hypothèse d'une mauvaise rencontre, celle d'un homme violent ou d'un maniaque, ne peut pas être écartée. Les gendarmes n'ont jamais écarté la mauvaise rencontre. Dès le début des investigations, ils se sont intéressés à un jeune homme qui aurait vécu quelques semaines à Cagnac-les-Mines et se serait volatilisé après le 16 décembre. Cet individu, sans adresse précise, aurait été identifié et entendu par les enquêteurs sans résultat. Des enquêteurs qui ont vite entrepris un gros travail de vérification avec le service central du renseignement criminel, le SCRC, dans le but, travail classique, de répertorier les délinquants sexuels connus dans la région et extraire des profils intéressants. Un rôdeur de ce type aurait très bien pu repérer la jeune femme, il aurait pu l'attirer brièvement hors de son domicile sous un faux prétexte pour l'agresser. L'hebdomadaire Marianne affirme de son côté qu'en 3 mois, 3 autres femmes ont disparu dans les mêmes conditions que Delphine Jubilard aux 4 coins de la France, suffisant pour envisager l'existence d'un ravisseur et tueur en série qui se déplacerait dans le pays à l'affût de jeunes femmes dont on ne retrouve aucune trace. Dans tous les cas de figure, les proches de Delphine Jubilard excluent que la jeune femme se soit aventurée d'elle-même dans la nuit, dans une obscurité totale, alors qu'elle avait peur, dit-on, du noir. Elle aurait donc été forcée de quitter la maison d'une manière ou d'une autre. Delphine, répète ses proches, n'était ni triste, ni inquiète, ni préoccupée. Lorsqu'elle s'est évaporée, quelqu'un voulait lui faire du mal. Ronan Folgoas, journaliste au Parisien, et vous suivez cette enquête depuis le début, je le répète. Alors, le croisement des fichiers, c'est classique en matière policière et gendarmesque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, on essaie de voir s'il y a des profils qui cadrent avec les délinquants locaux, c'est ça ?
Oui, et puis au-delà même de la région Occitanie, au-delà du Tarn, c'est vrai que les gendarmes et les services aussi de police qui ont été consultés ont observé bien une certaine coïncidence, c'est vrai, qui n'est pas exceptionnelle, mais qui n'est pas anodine, à savoir que 4 femmes âgées entre 30 et 40 ans, ces dernières semaines, ont disparu, sans laisser de traces derrière elles. Bon, après, c'est le point commun entre ces affaires, mais c'est le seul, en réalité. C'est-à-dire qu'ils ont aussi... ils sont arrivés, les services de police et de gendarmerie, à la conclusion, bien que ces affaires étaient très dissemblables, en réalité, dans un cas, on pense à la jeune femme près de Rennes qui a disparu au mois de février, début février. La piste privilégiée est celle du suicide. Dans le Val d'Oise, la joggeuse qui a disparu lors d'un footing là encore, il s'agit d'une autre piste, c'est plutôt celle de l'accident qui est privilégiée.
De la noyade, je crois.
De la noyade, tout à fait.
Ouais, d'accord. Donc c'est effectivement des profils qui se ressemblent. Ça, c'est évident. François Daoust, est-ce que dans le dossier Jubilard, même si vous ne le traitez pas, vous n'y avez pas accès, vous êtes l'ancien directeur de l'IRCGN, est-ce que la piste d'un tueur en série, il faut l'appeler comme ça, est plausible ?
Plausible, que ce soit un tueur en série ou une personne qui fortuitement rencontre sa future victime et va complètement passer de l'autre côté du miroir et va agresser la personne. Il y a les deux comportements qui sont parfaitement possibles et avec tout ce que cela entraîne. Oui, rien ne doit être négligé.
Oui, et c'est en cela que ces vérifications sont importantes et capitales. Il faut les faire de toute façon.
Oui, il faut toutes les faire. Et le service central de renseignement criminel, qui est en face d'ailleurs de l'IRCGN, avec qui il travaille, avec qui il partage les données, que ce soit les données forensiques, c'est-à-dire les traces qui ont été obtenues, trouvées, est-ce qu'elles sont compatibles avec les déclarations, est-ce qu'on pourrait les retrouver dans d'autres affaires, etc. Eh bien, les vérifications doivent être toutes faites et on ne doit passer à côté d'aucune.
Maître Jean-Baptiste Allary, vous êtes également l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de Cédric Jubilard, le mari de Delphine. Question toute simple, pourquoi votre client Cédric Jubilard n'a toujours pas été auditionné par les enquêteurs ?
Alors, je crois que c'est précisément en raison de ce qui vient d'être dit et qui est fort juste. C'est-à-dire que toutes les pistes sont exploitées, rien n'est interdit, rien n'est privilégié. Et je pense que l'enquête est dense complexe. Et avant qu'on puisse envisager une audition, encore faut-il, soit, si l'on privilégie une audition en tant que mise en cause, étayer un certain nombre d'éléments de preuve, ou alors, s'il s'agit d'une audition en qualité de partie civile, être en mesure d'avoir préalablement écarté une éventuelle responsabilité. Donc, je rebondis exactement sur ce qui vient d'être dit. Il ne faut rien privilégier, il ne faut rien écarter non plus, et toutes les pistes sont, dans tous les cas, à contrôler, pour qu'elle soit infirmée ou confirmée, mais dans tous les cas, il ne faut rien s'interdire.
Votre client espère une convocation, j'ai envie de dire. En tout cas, il l'attend, mais peut-être qu'il l'espère. Il est peut-être à bout de patience en ce moment.
Non, je crois que la convocation est proche dorénavant. On est à 2 mois et demi, bientôt 3 mois de la disparition. Et sans trahir quoi que ce soit, il est fort probable qu'il puisse être auditionné dans des temps relativement proches. Alors, quelle que soit la forme de son audition, encore une fois, je ne connais pas l'état de la procédure actuellement, mais l'audition est fondamentalement à proximité à présent.
Elle est à proximité, c'est-à-dire c'est une question de jours, de semaines ?
Je ne peux pas me prononcer, puisque c'est au juge d'instruction d'organiser le timing.
Mais selon vous, qui avez la science, vous êtes avocat pénaliste, vous connaissez bien la musique, si je puis dire, vous avez une idée, vous pensez que c'est une question de jours, de semaines ?
Ça va se compter en quelques semaines, certainement. Au bout de 2 mois et demi, bientôt 3 mois, je crois qu'il est raisonnable d'accorder à une personne un statut. On a appris récemment que des constitutions de partis civils avaient été rejetées. Dorénavant, il est temps que la procédure avance et évolue, quelle qu'en soit l'issue. Mais vraisemblablement, oui, l'audition de M. Jubillar approche.
Une séquestration, Ronan Folgoas, c'est quelque chose de possible dans ce dossier ?
Oui,
il y a peu d'exemples.
Techniquement, oui, ça n'a rien d'impossible. Après, c'est très difficile à organiser. Et puis, dans la durée aussi, puisque une séquestration de l'ordre de quelques jours, c'est déjà assez exceptionnel. Ça arrive, mais alors là, sur un délai aussi long de 3 mois, sans qu'un renseignement parvienne aux oreilles des gendarmes, sans qu'il n'y ait pas une dénonciation, sans qu'il n'y ait pas de mouvement suspect repéré, bon, c'est compliqué, mais ce n'est pas absolument impossible, puisqu'il y a eu quand même un délai de quelques heures. On est dans une zone assez flottante, entre 23h et 4h du matin. On ne sait pas à quel moment précisément Delphine aurait pu quitter son domicile, de gré ou de force. Donc ça lui laisse le temps, de manière générale, quelques heures comme ça pour s'échapper de, encore une fois, de gré ou de force. Et parce que la gendarmerie se met sur l'affaire, et je vous rappelle, à 6h du matin. Donc ça donne un intervalle.
Et juste en un mot, vous pensez qu'on aura la clé de cette histoire, ça va s'accélérer là, fatalement. Il va y avoir l'audition de Cédric Jubillar, ça va tout va aller plus vite maintenant.
Oui, alors là, je n'ai absolument pas la science infuse. Non, je ne me risquerai pas à ce genre de pronostic. Non, franchement, je ne sais pas.
Merci beaucoup, Ronan Folgoas. Merci à Maître Jean-Baptiste Allary et à François Daoust d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec le fait divers du moment, il faut l'appeler comme ça, l'affaire Jubillar. Feuilleton à suivre, nous n'en sommes pas encore, et de loin peut-être, au dernier chapitre. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Et un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble avec nous cette heure du crime.